Parole d'animaux.
Parole d'animaux.
L'info de la protection animale en continu.
Bonjour Olivia.
Bonjour Corinne. Alors je vous préviens, je subis une petite pharyngite depuis 2 jours. Alors si vous avez l'impression que ma voix déraille, c'est normal, tout va bien. Et on va tenter d'aller jusqu'au bout de cette chronique qui devait tenir en 10 minutes, si si. Mais que voulez-vous d'infos passionnantes en infos passionnantes? Il est encore possible que je me sois laissée prendre.
Alors, que fait-on ce jour?
Alors, aujourd'hui, lundi 22 mars, nous fêtons la Journée mondiale de l'eau. Une journée, figurez-vous, qui n'est pas si vieille que cela, puisqu'elle a été proposée dans l'agenda 21 durant le sommet de Rio de 1992 et adoptée en 1993 par l'Assemblée générale des Nations Unies, avec l'idée notamment de promouvoir les économies d'eau et l'amélioration des conditions d'accès à l'eau potable. Mais rappelons à toute fin utile que c'est en elle, l'eau, que la vie est née, qu'elle nous constitue à hauteur d'environ 80%, qu'elle aurait une mémoire, qu'elle est indispensable à la survie de tout être vivant et que malgré tout cela, nous la polluons chaque jour un peu plus. Entre marées noires, évacuation de toxiques chimiques, déchets et notamment plastiques indécomposables, il convient aujourd'hui presque d'être prudent et de s'interroger sur le parcours de l'eau du moindre petit ruisseau où l'on pourrait vouloir mettre un pied ou remplir sa gourde. Alors oui, il y a sur Terre encore bien des sources d'eau naturelles, heureusement, mais certaines se voient même contaminées. Pensons ici aux pollutions des nappes phréatiques et ce notamment à cause des produits chimiques utilisés dans l'agriculture et l'élevage intensif. Notamment. Bref, de nos jours, autant les étendues d'eau pure de baignade se raréfient et sont prises d'assaut par un tourisme qui contribue à son tour à sa pollution, autant les eaux de source se voient convoitées par les plus grands industriels de l'agroalimentaire, dont la firme Nestlé pour ne pas la nommer. En effet, vous avez certainement déjà vu dans divers magasins des eaux estampillées du nom de cette célèbre marque helvétique de fabrication de chocolat, enfin à l'origine du moins. Eh bien, saviez-vous que les eaux Nestlé proviennent de sources naturelles privatisées autour du globe et que, afin de garantir une eau égale aux 4 coins de la planète, la dite firme déminéralise ces eaux naturelles pour les reminéraliser synthétiquement à un taux en minéraux de composition stable et identique pour le produit fini mis en bouteille, et ce, quelle que soit l'origine géographique de l'eau. Ça fait un peu mal au cœur, non? En clair, c'est une eau reconstituée, privée de toutes ses propriétés naturelles, que ce soit chimiques mais aussi vibratoires, car oui, des scientifiques s'accordent pour donner à l'eau des pouvoirs plus ou moins bénéfiques en fonction des fréquences que l'eau a pu recevoir ou emmagasiner sur son chemin, et ce, grâce à cette fameuse mémoire de l'eau. C'est là qu'entrent en scène les différents procédés qui sont assez à la mode depuis 10 ou 20 ans, de dynamisation de l'eau par exemple, afin de lui rendre une vibration naturelle originelle qui la rende encore plus biocompatible, désaltérante et dépurative pour nos organes. Donc bon, que penser des eaux ainsi dénaturées et polluées? Renseignez-vous donc sur ce que vous buvez et afin de préserver ce bien qui nous est le plus cher, n'encourageons pas la pollution des sols et achetons bio et ne laissons rien derrière nous sur les plages ni dans la nature, et même si ce ne sont pas vos déchets, ramassez-les. Ok, ce n'est pas votre bouteille, mais c'est votre planète. Donc, en faisant tous un petit effort, bien des littoraux seraient plus propres, et qui sait, en ramassant un bouchon de plastique, vous sauverez peut-être une tortue. Enfin, sinon, nous fêtons Léléa, une femme qui vécut à Rome au 4e siècle et qui fut une disciple et contemporaine de Saint Jérôme. Alors, pour mémoire, Saint Jérôme, c'était entre autres l'un des premiers traducteurs de la Bible et l'un des 4 pères de l'église catholique. Alors bon, je n'ai rien de bien croustillant à son sujet, à Sainte Léa, mais qu'à cela ne tienne, je vous propose un petit dicton fake for sure. À la Sainte Léa, à bas la mode en chinchilla.
Et la pensée du jour?
Eh bien, que diriez-vous d'un petit proverbe français attesté depuis 1568 et qui mêle justement les notions d'eau et les animaux? Le voici. Quand la mer sera sans eau, le loup se mariera avec l'agneau. Bon, on a compris, c'est pas demain la veille, mais ce n'est pas une raison, car si la mer et les différentes sources d'eau de la planète sont assez loin de disparaître totalement, il se peut que leur pollution ne nous permette bientôt plus d'en profiter, ce qui reviendrait tout aussi bien à ne plus avoir d'eau, n'est-ce pas?
Et le chiffre du jour?
3,6 millions. C'est le nombre d'agneaux, justement, tués en France en 2018. Alors, à l'approche de Pâques, il convient de rappeler ces chiffres effarants et de se rappeler peut-être que dans le christianisme des origines, le fait de manger un animal relevait du sacrifice ritualisé et rarissime, un événement extraordinaire, épars. Du reste, l'agneau est le symbole christique par excellence. On pourrait se demander alors s'il n'y a pas quelques déviances à manger ce qui est la représentation du Christ pour fêter sa résurrection. Eh bien, dans les faits, oui. Mais au final, on comprend que ce ne soit pas le cas si l'on considère simplement que la communion catholique est, elle aussi, issue de la symbolique de l'ingestion du corps et du sang du Christ. Bref, j'avais un enseignant d'histoire de l'art qui n'hésitait pas à qualifier le christianisme de religion cannibale. Cela reste, ma foi, à méditer. Enfin, pour en revenir à nos moutons, même si en l'occurrence le jeu de mots est assez déplacé, je le concède, sachez que l'on considère de nos jours qu'à l'approche de Pâques, soit sur le mois de mars, disons, on assiste à une augmentation de 75% des abattages d'agneaux par rapport aux autres mois de l'année. Dans certains abattoirs, cela peut même monter jusqu'à une augmentation de 3 à 400%. Et en tout, on peut estimer à près d'un demi-million le nombre d'agneaux abattus en France pour cette période uniquement. Notons que pour 2020 toutefois, on pourrait presque remercier le Covid d'être passé par là. Confinement oblige, le nombre de commandes avait alors chuté de 80 à 85%. Il y a des jours où on est pro-confinement, quoi.
Et des actus ?
Eh bien oui, justement, parce que malgré un refus de plus en plus important de la population en général vis-à-vis des maltraitances animales, rien ou très peu semble vraiment avancer. Une pétition a été lancée le 10 mars dernier par 16 associations de protection animale européennes, dont la française L214, pour demander la mise en place d'un commissaire européen au bien-être animal. Alors déjà, d'autres pétitions récentes demandaient au niveau national un ministère ou du moins un délégué à la cause animale en France, mais là, il s'agit d'une action au rang supérieur, si je puis dire. Dans les faits, si le poste de commissaire européen à la santé et la sécurité alimentaire, englobant théoriquement la question du bien-être animal, existe déjà, cette compétence n'est pas clairement inscrite dans l'intitulé du poste, ce qui rend la thématique moins prioritaire, voire pas prioritaire du tout, et lui donne évidemment moins de poids. L'idée étant ici d'avoir une reconnaissance institutionnelle de ces millions d'individus afin que les divers exécutifs soient moins à la merci des différents lobbies et que les décisions puissent enfin suivre plus ou moins démocratiquement l'orientation de la population. Et le but final, inscrire la condition animale comme un sujet de premier plan pour l'Union européenne.
Et sinon, vous nous présentez une association aujourd'hui ?
Bon, eh bien, ce lundi 22 mars, je dois vous avouer que c'est la date anniversaire de mon association, Fake Fur for Sure, qui a été fondée il y a 2 ans, jour pour jour, et qui œuvre à la sensibilisation au sujet de la barbarie en lien avec l'emploi de matières animales, dans la mode notamment. Alors, de l'agneau à la paire de boots UGG, il n'y avait qu'un pas, ou qu'un pied, si je puis dire, et j'avais plein de trucs à vous raconter. Mais bon, ce sera pour une autre fois, car... Après avoir abordé la question des agneaux décimés pour Pâques, comment ne pas parler ici d'une très intéressante association, catholique qui plus est, qui s'appelle la FRA, F-R-A, pour Fraternité pour le Respect Animal, et qui milite pour que l'animal soit reconnu comme égal à l'homme, et ce, en tant qu'il fut créature de Dieu au même titre que l'homme. Alors, je précise si besoin que cette chronique est en tout point laïque, et que je ne fais ici aucun prosélytisme sinon en faveur d'un mode de vie à tendance vegan. Ceci étant dit, j'ai trouvé cette association qui tombe plutôt à pic dans cette chronique pré-pascale, car justement, à la FRA, on trouve qu'au XXIe siècle, l'animal n'occupe plus la place que Dieu lui a accordée, notamment dans les textes fondateurs du judaïsme et du christianisme. La condition animale est devenue intolérable aujourd'hui, et les hommes ne peuvent pas laisser faire. Les animaux sont trop souvent absents, dans les réflexions théologiques comme dans les homélies, et il convient donc de questionner le silence des églises face à la souffrance animale. Rappelons ici que les premiers chrétiens étaient végétariens et que les cathares sont morts pour avoir refusé de renier leur foi et, entre autres, de manger de la viande. En effet, Pour la FRA, le commandement d'aimer les autres est universel et inclut les animaux et leur qualité de vie, comme leur valeur intrinsèque, doivent faire partie de la réflexion morale et du message chrétien. Ainsi, il travaille à faire ressortir la place de l'animal dans la tradition chrétienne et à donner une voix et une présence aux animaux dans l'Église et la société en général, en prônant un véganisme éthique. Alors, pour info, cette association dont le siège est à Lyon a été créée en 2004 sous le premier nom de Fraternité Sacerdotale Internationale pour le Respect de l'Animal et a été renommée en 2017 sous le nom actuel de Fraternité pour le Respect Animal par l'abbé franco-suisse et historien de formation Olivier Gélène et par Madame Estella Torres. Ainsi, toute personne, religieuse ou laïque et même adepte d'une autre religion, l'association se voulant en effet résolument ouverte à tous, sans discrimination, toute personne donc souhaitant promouvoir le débat sur l'animal au sein de son église ou de sa communauté, trouvera dans cette association les pistes et soutiens historiques et spirituels utiles à aborder la thématique autour d'elle. Aussi, quelle que soit votre orientation spirituelle, je vous recommande la visite de ce très beau site, en partie bilingue français-anglais, et au décor animalier issu d'œuvres d'art célèbres. Bref, un contenu solide, sous une forme agréable, vous y trouverez des textes de référence, des débats, des prières dédiées aux animaux, une petite bibliographie, des liens très intéressants et des citations, ainsi que plus globalement la condamnation de l'élevage intensif, de la vivisection, de la corrida, etc. Et vous pouvez bien sûr devenir membre. Vous trouverez tout sur leur site fra-respect-animal.org.
Y a-t-il des nouvelles pétitions, Olivia ?
Eh bien, pour revenir à la sphère plus séculière de notre société, à savoir la politique, signons la récente pétition dont je vous ai parlé il y a quelques instants pour que la question de la condition animale ait son représentant officiel au sein de l'Union européenne. Apparemment, tout le monde peut signer, et c'est sur e4animals.eu. Ça s'écrit EUFORANIMALS.EU. Et puis sur mesopinions.com, deux pétitions allant également dans le sens d'une représentation de la protection animale au niveau législatif. La première s'appelle Pour un ministère ou un secrétariat d'État en faveur des animaux. Et la seconde, Un ministère pour le droit des animaux.
Olivia, un petit coup d'œil du côté de l'agenda.
Alors, aujourd'hui, 22 mars toujours, si vous êtes dans les Pyrénées-Atlantiques du côté du BAB, à 14h aura lieu un cube de la vérité à la place Jacques Portès à Bayonne, si la météo est bonne, ou place du Général Leclerc à Anglette, en cas de pluie. Et, très intéressant, à 20h en ligne, en suivant le lien sur le site l214.com, vous trouverez une conférence de Marie-Claude Marcelier sur son livre Le mépris des bêtes. Décidément, quelle chronique d'intello aujourd'hui.
Merci Olivia.
Merci à vous Corinne.
Et on termine avec quelle musique de fin ?
Allons, trouver une chanson qui traite de l'agneau sans tomber dans la comptine scolaire, ni la messe semi-intégrale ou le chant religieux un peu plan-plan qui eut, je le crains, gonflé plus d'un auditeur. Et pourtant que c'est beau parfois, hein ? Ce ne fut pas chose facile, mais je vous propose, en restant dans le degré de spiritualité requis, mais sans en avoir le caractère trop pompeux, l'Agnus Dei du célèbre groupe corse Imouvrini. Un très beau moment de haute fréquence et de recueillement. Alors si ce chant célèbre initialement le sacrifice et la grandeur du Christ, écoutons-le ici plus pragmatiquement peut-être en commémoration de tous ces agneaux morts pour tant d'estomacs peu scrupuleux, ne sachant d'ailleurs pour la plupart pas même ce qu'ils célèbrent entre guillemets en mangeant de l'agneau. J'ai dit. Ah, mais je pense à l'instant, le 22 mars, pour les adeptes de Marie-Madeleine, c'est aussi, je crois, la naissance de Marie-Madeleine. Du reste, si on sait compter, c'est aussi le moment de la conception, ou plutôt de l'insufflation, de Jésus dans le ventre de Marie. Quelle journée christique! C'était Olivia de Fake Fur for Sure, et si ma voix le permet, je vous dis à demain sur Radio Parole d'Animaux.